Bonjour tout le monde, bienvenue sur Grace Touch. Alors aujourd'hui c'est l'épisode numéro 6 de la deuxième saison. Je suis NJ et je suis avec
Coco. Bienvenue dans notre podcast une fois de plus. Nous sommes ravis de nous entretenir avec vous aujourd'hui. Alors NJ, qu'est-ce qu'on fait? De quoi on parle aujourd'hui?
Donc aujourd'hui nous allons parler de la lettre aux Juifs exilés à Babylone. Donc, c'est le titre d'un chapitre dans le livre de Jérémie. Nous allons lire ensemble le chapitre 29, des versets 4 à 14.
D'accord, on commence par là alors. Hein.
Voilà, donc je vais donc lire ce passage. Hein. Jérémie 29, versets 4 à 14. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël, à tous les exilés que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Construisez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Mariez-vous et ayez des fils et des filles. Donnez des femmes en mariage à vos fils et des maris à vos filles pour qu'elles mettent au monde des fils et des filles. Augmentez en nombre là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai exilé et intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur parce que votre bien-être est lié au sien. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes, ceux qui vivent parmi vous, ni par vos devins, et ne faites pas attention aux rêves que vous faites. En effet, ce sont des mensonges qu'ils vous prophétisent, comme s'ils venaient de moi. Je ne les ai pas envoyés, déclare l'Éternel. En revanche, voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront passés pour Babylone, j'interviendrai en votre faveur. J'accomplirai ce que je vous ai promis en vous ramenant ici. En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors vous m'appellerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, déclare l'Éternel, et je ramènerai vos déportés. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les endroits où je vous ai chassés, déclare l'Éternel, et je vous ferai revenir à l'endroit d'où je vous ai fait partir en exil. Amen.
Amen.
Est-ce que tu aimerais nous donner un contexte de ce passage? Alors, qu'est-ce qui se passait avec le peuple d'Israël à l'époque où ce message leur a été donné?
Alors, à l'époque où le message leur a été donné, après de multiples avertissements du Seigneur, notamment par la bouche de son prophète Jérémie, le peuple d'Israël qui persistait dans sa désobéissance et dans son péché, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils se laissaient influencer par les peuplades qui les entouraient, finit par être conquis par Nebuchadnezzar, par le roi de Babylone. Et Nebuchadnezzar, c'est très intéressant parce qu'il s'attaque au temple, il prend les prêtres et beaucoup des ornements qui étaient sacrés, qui étaient dans le temple. Il prend tous les artisans et les artistes. Il prend une bonne partie du peuple, tous ceux qui sont forts, vigoureux, tous les princes, etc. Donc, en fait, il embarque une bonne partie du peuple d'Israël et il les amène en exil à Babylone. Et à l'époque, il y avait pas mal de prophètes qui disaient « Non, 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 tout va bien, voilà, vous allez vaincre, nous allons vaincre Babylone, etc. etc. » Et Jérémie, qui était véritablement le prophète de Dieu, qui écoutait la voix de Dieu, qui ne cherchait pas à se satisfaire de ce qu'il voulait, mais qui était plus intéressé par la vérité, n'arrêtait pas de leur dire « Nous n'allons pas les vaincre, nous allons être transportés en exil. » Comme la parole le dit, lorsqu'une prophétie vient du Seigneur, elle s'accomplit. Et voilà, donc ce que Jérémie leur a prophétisé s'est accompli. Donc ce passage est une lettre que Jérémie écrit. Donc Jérémie est resté à Jérusalem. C'est une lettre que Jérémie écrit d'Israël aux exilés qui sont à Babylone. Voilà donc le contexte.
Merci beaucoup. Donc, moi, je vais partager la manière dont ce verset m'encourage, me parle. Et je vais reprendre par le début, hein. Il y a trois choses qui me frappent dans ce passage. La toute première, c'est le fait que c'est à l'initiative de l'Éternel que Jérémie écrit au peuple. C'est-à-dire, ici, ce qui me frappe, c'est que oui, le peuple est exilé. Quand je pense à la situation des uns et des autres, à ma propre situation, il y a des moments où on peut se sentir aussi exilé, où on est physiquement exilé, on est loin de notre pays, on est immigré, on est dans une situation où on se sent complètement étranger, hors de notre élément. Et ici, ce que le Seigneur, ce qui me frappe à travers cette lettre que Jérémie écrit sous l'influence de Dieu, hein, il écrit le message que Dieu a pour son peuple, c'est le fait que Dieu montre d'une manière très tangible à son peuple qu'il ne l'a pas oublié, qu'il le voit, qu'il sait ce qui se passe, qu'il pense à eux et qu'il n'est pas indifférent. Donc c'est vraiment la première chose qui me touche et de manière très personnelle, parce que je pense que c'est un message qui est toujours aussi contemporain. C'est un aspect du Seigneur qui n'a pas changé. La Bible dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et c'est la vérité. Dieu, son amour pour nous ne change pas. L'intérêt qu'il a pour nous ne change pas. Et donc ça, c'est déjà, ça m'encourage. Donc ensuite, maintenant, le début du passage, partie du verset 4. Donc il parle aux exilés, verset 5, il leur dit, construisez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits. Bon, moi, ça me surprend. Parce que si je suis en exil, je me doute que mon pays va me manquer. J'imagine que le peuple d'Israël avait très envie de. Ceux qui étaient exilés avaient très envie de retourner dans leur pays, d'être réunis avec les membres de leur famille, avec leurs amis, de retrouver les maisons qu'ils ont laissées derrière et tout. Donc, sachant qui est Dieu, sachant qu'il est tout-puissant, sachant qu'il peut tout faire, sachant qu'il a ouvert la mer Rouge en deux, comment dire, délivrer le peuple d'Israël de l'esclavage quand ils étaient en Égypte. En esclavage pendant 400 ans. Si quelqu'un vient me dire tu as une lettre de la part de Dieu et je suis en exil, je vais sauter de joie dans mon cœur. Parce que je vais m'attendre à ce que la lettre dise voici, j'arrive, je vais te délivrer. Et en fait, là, c'est pas du tout ce que le Seigneur dit, c'est mets-toi à l'aise. Construisez des maisons et habitez-les. En d'autres termes, tu es là pour rester un petit moment. Planter des jardins et manger-en les fruits. Et ça me parle dans le sens aussi, ne te néglige pas, ne te laisse pas mourir de faim. Si tu avais envie de faire une grève de la faim jusqu'à ce que la délivrance arrive, non, au contraire, reprends des forces. Construis une maison,
Amen.
essaie d'être à l'aise là où tu es et habite dedans. Et ça veut aussi dire, la manière dont je comprends ça également, c'est, comment dire? Tu es sur une terre qui n'est pas la tienne, mais ne te mets pas à l'écart. Ne te mets pas à l'écart. Mariez-vous, ayez des fils et des filles. En gros, ça veut dire construis ton avenir. Ne te dis pas que parce que tu es hors de ton élément, parce que tu es ici, tu es étranger dans un pays qui n'est pas le tien, ça ne veut pas dire que tu n'as pas d'avenir. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas penser au futur et que tu ne peux pas construire ton futur. Donc, il dit, voilà, non, mets-toi en ménage et des enfants, continue ta vie de manière normale. Donnez des femmes en mariage à vos fils et des maris à vos filles, afin qu'elles mettent au monde des enfants, des fils et des filles. Et ça me frappe aussi. Ça me rappelle, en fait, l'ordre que Dieu a donné quand il nous a créés, quand il a créé Adam et Ève, et le message qu'il a donné à l'humanité. C'est OK, l'homme et la femme quitteront leur père et deviendront un. Adam et Ève, il leur a demandé de procréer, de remplir la terre. Et une manière pour moi de paraphraser ce que je lis ici, c'est en gros, Dieu demande à son peuple de ne pas arrêter de vivre. De ne pas arrêter de vivre. Augmentez en nombre là où vous êtes et ne diminuez pas. Et en fait, augmentant en nombre, quand ça vient du Seigneur, on sait que c'est une bénédiction. Donc c'est pareil, il dit, mais là où tu es, je lis ça comme en disant, mais je suis avec toi, ma main est avec toi. Recherchez le bien-être de la ville où je vous exilais et intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur. Il y a deux choses qui me frappent dans ce verset-là, c'est le verset 7. D'une part, quand il dit recherchez le bien de la ville, normalement, le cœur, ce serait normal que le cœur soit rempli d'amertume. Ce serait normal qu'on soit rempli de mélancolie. Oh là là, de nostalgie. Mais non, c'est pas ce que le Seigneur dit. C'est si, j'imagine, peut-être qu'il y avait des gens parmi le peuple qui étaient assis par terre dans la poussière à pleurer à longueur de journée parce que, voilà, frères et sœurs manquent, j'ai laissé ma femme et tout, etc., etc. Dieu dit non, arrête ça. Arrête ça. Au contraire, là où tu es maintenant, tu n'es pas là pour rien. Donc, vu que tu es là, prie pour que cette ville soit bénie. Et ça, encore une fois, c'est un message qui est vraiment d'actualité parce que c'est l'appel que Dieu a sur nos vies à chacun. Toute personne qui a donné sa vie à Christ, Dieu nous demande d'être un ambassadeur de son amour. Dieu nous demande d'être un ambassadeur de Christ. Il nous demande d'intercéder pour les autorités dans l'endroit où on habite. Il nous demande d'être une lumière. Donc quand il dit intercéder auprès de l'Éternel, il nous rappelle que effectivement nous sommes des intercesseurs. Il est dit prier pour tous les hommes. Et donc c'est voilà, donc il le rappelle ici. Donc il dit mais intercède pour la ville où tu es et il explique pourquoi, parce que ton bien-être est lié au sien. Et ça, je pense que parfois c'est quelque chose qu'on peut oublier en tant que chrétien dans la vie actuelle. Donc c'est pas pour critiquer, mais je pense qu'on peut rapidement tomber dans une routine où ok, on va lire notre Bible et on va prier. Et peut-être que souvent, ça peut arriver que on tombe dans la routine et quand on prie, on va prier pour les membres de notre famille, on va prier pour nos amis, ceux qui nous sont proches et on sait ils sont dans le besoin, ils ont besoin de guérison, ils ont un problème particulier. Et puis on va prier pour nos besoins, bien sûr. Et puis parfois, on va s'arrêter là. Combien de fois est-ce que ça fait partie de notre habitude journalière de prier pour la ville où on habite? Est-ce que c'est dans nos habitudes quotidiennes d'intercéder pour les gens qui habitent dans cette ville, les autorités qui habitent dans cette ville? Je veux dire des parfaits étrangers, des personnes qu'on ne connaît pas. Donc ce verset 7, mes chers frères et sœurs dans la foi et tous ceux qui écoutaient, prenons ce verset, cette exhortation très à cœur. Si ça fait un moment que vous n'avez pas prié, que nous n'avons pas prié pour la ville, l'endroit dans lequel on habite, dès la fin de ce podcast, n'hésitons pas. Remettons cet endroit entre les mains du Seigneur. Remettons notre pays entre les mains du Seigneur. Donc là, le verset 8, un avertissement. Donc encore une fois, ici Dieu dit, ne vous laissez pas tromper par vos prophètes, ceux qui vivent parmi vous, ni par vos devins, et ne faites pas attention aux rêves que vous faites. Alors je voudrais rappeler le contexte parce que je trouve que c'est très important. Encore une fois, nous parlons d'un peuple qui est en exil, donc qui a perdu ses repères, qui n'est pas dans un endroit familier. Et bien sûr, quand on est dans des circonstances pareilles, on se pose des questions sur l'avenir. Et quand on se pose des questions sur l'avenir, bon, on peut être anxieux, on a envie de se rassurer. Et parfois, on peut être tenté d'aller chercher conseil au mauvais endroit, de se tourner vers de mauvaises personnes. Alors Dieu ici est très précis. Donc, il parle des prophètes. La démission d'un prophète, c'est quelqu'un qui donne un message de la part de Dieu. Mais on sait qu'il y a des prophètes, on sait qu'il y a aussi des faux prophètes. Donc, il y a des gens qui disent avoir reçu un message de Dieu. Et il peut y avoir deux choses. Soit effectivement, ils ont reçu un message, mais ça ne vient pas de Dieu. Ça vient de celui qui se fait passer pour Dieu, celui qui avant était un ange de lumière et qui est déchu. Je parle de l'ennemi, hein, de Satan. Ça peut venir de la flèche, hein, de l'orgueil, parce qu'on veut se sentir important. Et par vos devins. Alors là, les devins, c'est clairement des gens qui ne se cachent pas et qui sont dans l'astrologie, dans la divination. Et encore une fois, c'est normal, hein, c'est la nature humaine d'être tentée de vouloir d'être pour pouvoir préparer son avenir, d'avoir une idée de ce qui va se passer. Donc voilà, on peut être tenté de regarder l'horoscope, de parler à des voyants ou autres, des marabouts, je ne sais pas. Mais le Seigneur dit non, ne fais pas ça. C'est pas quelque chose que je tolère. Je suis là, je te parle, je suis là directement. Fais-moi confiance. Et il parle de ceux qui vivent parmi vous. Et ça me frappe aussi, parce que c'est pas forcément que tu te lèves, tu vas très loin pour aller chercher ces fréquentations, c'est que parfois elles sont proches de toi. Donc là, quand je lis ce verset, ma prière, c'est Seigneur, mais ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux à chaque fois, donne-nous le don de discernement, qu'on sache à qui on a affaire, c'est-à-dire aux esprits qui sont derrière. Que quand on demande des conseils à des personnes qu'on estime, parce qu'elles ont plus d'expérience ou autre, mais qu'on ait toujours à cœur, chers amis, chers frères et sœurs, de prier, de demander au Seigneur, OK, ce que je viens d'entendre, est-ce que ça vient de toi? Ouvre mes yeux, donne-moi le don de discernement. Montre-moi si effectivement c'est sage. Et ne faites pas attention aux rêves que vous faites. Pourquoi est-ce qu'il parlait de ça? Alors, quand vous lisez dans l'Ecclésiaste, il est dit, le roi Salomon, à un moment donné, dit que les cauchemars viennent de l'anxiété. Les mauvais rêves viennent de l'anxiété. Donc, je parle de ça parce que quand il est dit ici, ne faites pas attention aux rêves que vous faites. Si vous êtes déjà dans une situation où vous êtes super, super, super stressé, il est fort possible que vous allez faire des rêves qui sont influencés par ce qui vous angoisse. Et bon, là, c'est moi, c'est une des explications qui me vient à l'esprit quand je lis ça, mais ça ne veut pas dire que c'est la seule. Si le Seigneur le dit ici, ça veut aussi tout simplement dire que voilà. Tous les rêves qu'on fait ne viennent pas forcément de Dieu. Donc, encore une fois, moi, je pense que c'est un encouragement parce que parfois on a des rêves, on peut avoir l'impression que voilà, c'est un rêve prémonitoire, il y a un message, on ressent, on a une sensation très spéciale au réveil. Première réaction, la première réaction, qu'elle soit toujours de d'abord venir au Seigneur, de prier et de lui demander parce qu'il promet, si on l'invoque, il nous répond, si on le cherche de tout notre cœur. Donc, et après, il explique, hein, ce sont des mensonges, ils ne viennent pas de moi, donc il parle, il parle. Mais alors, vraiment, le troisième point, c'est quand on arrive à partir là du verset 10 jusqu'au verset 14, finalement, après avoir expliqué tout ça, donc Dieu va par étapes, hein, il nous dit d'abord, oui, mets-toi dans la tête que tu es là pour un moment. Ne te dis pas que je viens de te délivrer dans les 2 secondes qui arrivent. Donc, il y a ça. Deuxièmement, il dit, fais attention où tu vas chercher, fais attention à la source de, comment dire, là où tu vas chercher conseil, fais attention vers qui tu te tournes, à qui tu parles, etc., ceux qui vivent parmi vous et qui prétendent parler de moi, ça ne vient pas de moi. Il ne veut pas que dans nos vies, qu'on tolère des idoles, qu'on se tourne vers des dieux étrangers. Et donc, une fois qu'il a expliqué tout ça, c'est seulement après qu'il parle de délivrance. C'est après, donc, il donne la bonne nouvelle. Il dit, OK, dès que 70 ans seront passés pour Babylone, j'interviendrai en votre faveur. J'accomplirai ce que j'ai promis en vous ramenant ici. Donc, Dieu leur dit, je n'ai pas oublié ce que je t'ai promis. Et dans sa grâce, il leur donne même une période très précise. Il a dit 70 ans. La raison pour laquelle il leur demande de construire des maisons et de se marier, d'avoir des enfants. Il y a une période de 70 ans qui doit se passer. Et après, donc, le Seigneur me parle de la délivrance. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et je vais finir sur ce point. Ce qui m'encourage le plus, c'est mon. Bien sûr, nous sommes familiers avec le verset 11. En effet, moi, je connais les projets que j'ai formés pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Verset 12. Alors vous m'appellerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Et vraiment. Chers amis, que cela nous mette du baume au cœur, que cela nous encourage, mais très, très profondément. Parce que quand Dieu fait une promesse, quand il dit quelque chose, il accomplit toujours ce qu'il dit, il suit derrière. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Donc quand il est écrit, c'est déjà qu'il dit, mais j'ai à cœur ton bien, je veux te bénir. Et il dit ça à un peuple qui est en exil, qui devait se sentir oublié, loin de tout, loin de ce qu'ils aiment, dit non. Je connais les projets que j'ai formés pour toi, projets de paix et de bonheur. Et il dit, il rajoute derrière, mais si tu m'invoques, tu m'invoqueras, je te répondrai, si tu me cherches de tout ton cœur. Donc c'est ce que je retiens dans ce passage, l'exhortation finale de Dieu enfin, par rapport à ce passage, c'est il leur dit, mais continue de m'aimer de tout ton cœur, continue de me faire confiance, continue de garder mes commandements de toute ta force, continue de marcher sous mon regard, dans la droiture, avec moi. Et je serai avec toi. Et tu m'invoqueras, tu me prieras, et je t'exaucerai. Et tu me chercheras, et tu me trouveras. Donc voilà, et pour moi, d'une manière très très personnelle, quand je lis la Bible, je ne peux pas m'empêcher de réfléchir à ma propre vie, à ma propre situation. Donc quand je lis un passage comme ça, bien que c'est une lettre qui a été écrite il y a des milliers d'années, et le Seigneur s'adressait à ce moment-là au peuple d'Israël qui était en exil, on sait que, comme le Seigneur Jésus a dit, la terre passera, la parole de Dieu ne passera pas. Hein, ce qui a été crié, le ciel et la terre passeront, la parole de Dieu ne passera pas. Et la raison pour laquelle on lit aujourd'hui encore l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est parce que ce que Dieu disait dans le passé, c'est toujours valable aujourd'hui. Quand il fait une promesse, il a dit à Abraham, il a dit à plusieurs de ceux qui nous servent de témoins aujourd'hui, quand il nous bénit, il bénit jusqu'à 1 000 générations. Et vu qu'il bénit une génération, mais c'est exponentiel. Donc les bénédictions sont passées d'une génération à l'autre. Donc ces bénédictions qu'on lit, qu'il avait données au peuple d'Israël en exil, elles sont valables pour nous aussi aujourd'hui. Si on le cherche, on va le trouver, si on le cherche de tout notre cœur. Quel que soit ce qu'on traverse aujourd'hui, à travers ce qu'on vient de lire, Dieu nous rappelle qu'il ne nous a pas oubliés. Il sait où on est, il sait ce qu'on traverse. Il nous demande de prendre courage. Il nous demande de continuer de vivre. Et il nous promet que la délivrance arrive. Et cette délivrance, nous savons que nous l'avons en Jésus. Amen.
Merci. Merci pour cette exhortation. Je ne vais pas répéter les points que tu as soulignés, mis en avant, parce que je suis d'accord avec toi. Plusieurs choses me sont venues à l'esprit pendant que tu parlais. Il m'est venu à l'esprit un passage dans le Nouveau Testament, c'est 2 Timothée, chapitre 4. Timothée parle, exhorte les chrétiens, ses frères et sœurs à prêcher la parole en toute occasion favorable ou non, à reprendre, à censurer, à exhorter, etc. Hein, 2 Timothée chapitre 4, donc à partir du verset 1. Mais ce qui m'intéresse, c'est le verset 3 et 4. Timothée dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Donc, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et je pense que c'est de ça aussi que le Seigneur parle à travers son prophète Jérémie quand il dit, n'écoutez pas vos prophètes et vos devins. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu une telle multiplication de faux prophètes à cette époque, alors que Jérémie leur donnait le message qui venait de Dieu. Le peuple d'Israël voulait plutôt entendre les messages qui les rassuraient, qui les réconfortaient. Mais Dieu il ne se contredit pas et son royaume est comme un système légal. Si on persiste à faire certaines choses, il y aura des conséquences. Je ne crois pas personnellement à l'idée que Dieu punit, bien que parfois, notamment dans l'Ancien Testament, les textes soient écrits de cette manière. Et j'invite nos auditrices et auditeurs à réfléchir et à réagir, hein, bien sûr. Nous sommes ouvertes à la discussion et même entre NJ et moi, nous n'avons pas forcément exactement la même façon de voir tout, mais ce n'est pas quelque chose qui nous divise, nous sommes unis en Christ, hein, et nous sommes des étudiants de la parole jusqu'à ce que toute la vérité nous
Amen.
soit révélée. Nous allons de gloire en gloire, de perfectionnement en perfectionnement. Mais ma compréhension de Dieu à ce stade est que Dieu ne punit pas. Mais par contre, comme son royaume est un système légal, dès que nous allons dans le camp de l'ennemi par, je ne sais pas moi, le vol, le mensonge, l'orgueil, la divination, par exemple, ou le fait de résister à la désobéissance à Dieu qui est comparée à la sorcellerie, hein, dans l'Ancien Testament et répétée par Paul dans le Nouveau, nous ouvrons nos portes en quelque sorte à l'ennemi et les conséquences viennent. Donc l'exil à Babylone est une conséquence de comportements répétés pendant des décennies ou peut-être même plus longtemps que ça du peuple d'Israël. Donc dans cette situation, au lieu d'écouter ce que Dieu leur disait et de se repentir, ils avaient ce que Timothée appelle des démangeaisons aux oreilles, qui les poussent à vouloir entendre des choses agréables. Dieu n'est pas un Dieu qui va couvrir notre péché et le balayer sous le tapis. Au contraire, il va l'exposer, non pas pour nous faire honte, ni pour nous donner un sentiment de culpabilité, mais pour nettoyer la plaie, pour enlever le pus, pour assécher tout et pour que nous soyons assainis. Le but avec le Seigneur est toujours notre sanctification. Donc, je pense que ça pèse aussi également beaucoup dans cette exhortation à ne pas écouter les faux prophètes et les devins. Et comme tu l'as dit, NG, il y a aussi l'angoisse qui peut susciter des choses en nous. On peut être traumatisé au point où on commence à rêver certaines choses qui ne viennent pas de Dieu. Donc, j'appuie fortement ce que tu dis là. Le discernement est essentiel. Le discernement est essentiel. Nous devons être matures en tant que chrétiens. En tout cas, chercher la maturité, c'est un processus. Et demander, examiner le Seigneur, examiner nos cœurs et demander, Saint-Esprit de Dieu, examine mon cœur et montre-moi. Montre-moi si je suis dans la vérité ou pas. Et ce n'est pas quelque chose seulement du Nouveau Testament. Hein. David l'a dit, examine mon cœur, afin que je ne puisse pas pécher contre toi. Donc, il y a de cela, très fortement dans ce passage. Je suis d'accord avec toi. Et l'encouragement du fait que, quelle que soit notre situation, Dieu nous voit, comme tu l'as dit, Angie. Par rapport au COVID-19, au coronavirus qui a littéralement mis le monde en pause et que nous avons évoqué dans notre épisode précédent, nous sommes comme exilés dans nos maisons, exilés entre nos murs, exilés, confinés dans des endroits très restreints. En France, je sais que ça fait, je crois qu'on est près de 25 jours maintenant en France, hein, de confinement. En Grande-Bretagne, c'est un peu moins. On entame la troisième semaine. Mais toujours est-il que nos mouvements ne sont plus libres. Nous ne pouvons plus faire tout ce que nous voulons. Nous sommes comme exilés. Et il y a un parallèle là très intéressant entre notre situation et celle d'Israël à Babylone. J'imagine que souvent aussi, on amène un peuple en exil quelque part. Ils n'ont pas les mêmes droits que les autres citoyens, n'est-ce pas? Donc, on va peut-être leur demander de montrer je sais pas moi, leur pièce d'identité avant de faire quelque chose. Il y aura peut-être certaines choses qui ne sont pas accessibles au peuple d'Israël à Babylone. De même, nous, à cause du COVID qui a poussé les gouvernements et les services de santé à nous restreindre, à nous confiner, il y a certaines choses que nous faisions avant que nous ne sommes plus libres de faire. On doit se tenir à 2 mètres les uns des autres, on ne peut pas serrer les gens dans nos bras, on ne peut pas les toucher. La plupart des services, même dans les églises, se font à distance maintenant. Les conférences, ce sont des téléconférences au travail. Bref, le monde tel que nous le connaissions a changé. Et ce passage me parle vraiment fortement par rapport à notre situation actuelle. Que dit Dieu dans cette situation? Dieu a-t-il perdu sa compassion? Dieu a-t-il perdu sa force? Non. Non. Et je ne dis pas que le coronavirus est une conséquence directe du péché humain. Ce n'est pas ce que je dis. Il y a plusieurs théories, souvent plus folles les unes que les autres, qui circulent. Par contre, je nous invite à examiner nos cœurs devant Dieu. Et si on le souhaite, pourquoi pas lui demander qu'est-ce qui a causé le coronavirus? On sait une chose, c'est que quand Dieu a créé la terre et le ciel, il n'a pas inventé la maladie. Nous connaissons l'origine de la maladie. Le diable est, je ne vais pas l'appeler autrement, le diable est à la source de tous les maux humains, de la maladie, du péché, de la guerre, etc. C'est écrit dans la Bible très clairement. La mort n'était pas dans le plan de Dieu. Mais étant Dieu et sachant tout à l'avance, sachant, connaissant la fin avant même le début, il a prévu des moyens d'en sortir, notamment Jésus. Et tu l'as dit, Angie, notre salut est en Jésus, notre espérance est en Jésus, quelle que soit la situation que nous rencontrons. Alors, la réponse de Dieu n'est pas forcément toujours comme nous le pensons, n'est-ce pas, Nathalie? Comme tu l'as dit, le peuple exilé à Babylone aurait pensé qu'en criant à Dieu, Dieu allait dire comment? Vous êtes, Nebuchadnezzar a osé vous enfermer, sortons tout de suite. Non. Au contraire, Dieu dit, non, 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 non. Installe-toi confortablement. Comme tu l'as dit, Angie, construis des maisons, plante des jardins, etc. Marie, cherche des épouses et des époux pour tes enfants et tu auras des petits-enfants. Bénis la ville où tu vivras, tu vas prospérer dans cette ville. Et c'est une exhortation pour moi que je partage avec nos auditrices et auditeurs de nous contenter, de trouver le contentement dans cette situation très restrictive et très difficile dans laquelle le monde se trouve, sous le joug, en quelque sorte, hein, temporaire, hein, de coronavirus. Le contentement. Comment pouvons-nous nous réjouir? Alors, en anglais, c'est voilà, le psaume 137. Alors, je vais en lire un extrait parce que c'est vraiment intéressant, c'est vraiment la situation où on est captif. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est captif? Est-ce qu'on s'assied par terre et dans les cendres et en déchirant ses vêtements, comme tu l'as dit? Qu'est-ce qu'on fait? Si on regarde le psaume 137, il commence au verset 1 par « Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. » Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpins. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants. Et nos oppresseurs de la joie. Chantez-vous quelques-uns des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? C'est intéressant, ça, c'est exactement de ça. Et qu'est-ce que le psalmiste dit au verset 6? Que ma langue s'attache à mon palais, ce qui était, c'était une malédiction juive, hein. Que ma langue s'attache à mon palais si je ne me souviens de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. Donc c'était Louis II, la version Louis II est souvent parfois un peu, mais vous pouvez lire d'autres versions pour comprendre. Donc en fait, Jérusalem est représentant ici, la nouvelle Jérusalem représentant le salut de l'Éternel. C'est de faire de Dieu, de notre espérance en Christ, la raison pour laquelle nous nous réjouissons, la raison pour laquelle nous chantons des chants, la raison pour laquelle, malgré nos circonstances actuelles, nous louons le Seigneur. C'est une invitation à offrir des sacrifices de louange à l'Éternel dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et par rapport à ce passage, je voudrais aussi faire une remarque finale. Je parle maintenant du passage de Jérémie, notamment ce verset. Voici, je connais les projets que je forme pour toi ou les pensées que j'ai pour toi selon les versions. C'est ce verset est tellement cité hors du contexte, hors de son contexte. Tellement cité hors de son contexte. La raison pour laquelle Dieu dit, nous rappelle les pensées et les projets qu'il a pour son peuple, c'est parce qu'ils sont en captivité. Et souvent, pour leur rappeler qu'il est Dieu, qu'il n'a pas changé. Et souvent, nous, chrétiens, nous sortons ce passage du contexte et on dit, ah, je connais les projets de joie et non de malheur. Attention. Attention, ce verset parle d'abord de 70 ans de captivité. C'est comme si la peine doit être complète. La peine, je veux dire, la peine, comme un prisonnier en prison, hein. La peine, la sentence doit être complète avant de sortir de cette captivité. Alors, nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament et nous ne sommes pas le peuple d'Israël captif à Babylone. Mais que cela nous parle du fait que s'il y a des choses dans nos vies, je quitte maintenant le contexte global du coronavirus, mais dans nos vies, s'il y a des choses dans nos vies que l'Éternel nous indique de manière répétée, par sa parole, par des exhortations, par des paroles de connaissance que nous avons peut-être reçues, des prophéties, s'il y a des choses que notre conscience même, parce que le Seigneur nous parle aussi par notre conscience, s'il y a des choses qui perdurent dans nos vies, des péchés qui perdurent, des habitudes mauvaises, que Dieu nous dit encore et encore, arrête, 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 sachant qu'il y aura des conséquences. Et je ne dis pas ça pour nous effrayer, mais plutôt pour nous exhorter à venir à genoux devant ce Dieu qui est compassion, rempli de compassion et de miséricorde et qui demande, qui cherche à nous pardonner et à nous laver. Il n'a jamais été dans la volonté de Dieu de nous faire souffrir. Que ce soit une exhortation à nous examiner nous-mêmes, à dire, Seigneur, est-ce qu'il y a des choses? Est-ce qu'il y a des péchés? Est-ce qu'il y a des manquements? Est-ce qu'il y a des formes de désobéissance qui sont devenues familières au point où je ne les vois plus? Est-ce qu'il y a des choses que je laisse entre toi et moi qui nous séparent? Je ne veux pas que l'ennemi m'amène en captivité. Je veux plutôt goûter à tes promesses, goûter à tes bénédictions. Je veux que les 1000 générations qui suivent soient bénies en toi. Voilà donc comment ce passage me parle.
Merci pour ces pensées qui, comme toujours, hein, c'est une fois qu'on finit l'enregistrement de nos épisodes, je réfléchis encore beaucoup parce qu'il y a tellement de joyaux dans la parole du Seigneur. Et donc, merci pour ce passage. Donc, chers amis, j'espère que cet épisode vous a encouragé. Et donc, ceci conclut l'épisode d'aujourd'hui. Coco, est-ce que tu voudrais ajouter un mot pour la fin?
Non, juste soyez encouragés, mes bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Et s'il y a parmi nos auditrices ou auditeurs des gens qui ne connaissent pas Jésus et qui se demandent vraiment de quoi il en retourne, n'hésitez pas à nous envoyer un message. Et nous sommes accessibles sur Instagram, Twitter, Facebook. N'hésitez pas, contactez-nous et nous ferons une joie de partager la bonne nouvelle du salut qui est en Christ.
Voilà. Avec vous. Donc, merci. Nous vous souhaitons à tous une très bonne semaine. Et le prochain épisode de Grace Touch en français, un nouvel épisode, hein, sera disponible d'ici 2 semaines. Voilà. Au revoir
à tout le monde. Soyez bénis.